La conquête de la Navarre par les rois catholiques, voici une conférence d'Antion Curuchari, professeur d'histoire et auteur de l'ouvrage publié chez Elkar, 1512-1522, La conquête de la Navarre. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie de cette conférence d'Antion Curuchari, enregistrée le 25 janvier 2018 à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre des Jeudis du Batsuki. La conquête de la Navarre par les rois catholiques, voici donc la première partie de la conférence d'Antion Curuchari, Antion Curuchari qui nous est présentée par Serge Arismendi.
Alors, si vous fréquentez la vallée de Baïgorry, vous avez certainement déjà entendu parler de cet adjoint au maire de Baïgorry, qui fait aussi partie du conseil permanent de la communauté d'agglomération Pays Basque et aussi qui s'implique beaucoup dans l'avenir du château d'Etxauz. Vous l'avez certainement reconnu si vous suivez TVPI ou si vous avez regardé l'émission Des Racines et des Ailes sur le Pays Basque. Il nous a fait passer le col de Roncevaux pour nous conduire sur les plus beaux sites du royaume de Navarre jusqu'à sa capitale Pampelune. Cette passion pour notre pays, sans doute va-t-il la chercher dans l'histoire, car il est historien, titulaire d'une maîtrise d'histoire médiévale sur la Navarre, effectuée sous la direction de Béatrice Leroy, qui fait autorité en la matière. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés, parmi lesquels je citerai « Les rois de Navarre et la dynastie de Champagne » et aussi « La vallée de Baïgorry entre le Xe et le XIVe siècle ». Et finalement, en 2012, il a publié un livre intitulé « La conquête de la Navarre, 1483-1524 ». J'avais écrit que vous pourrez vous procurer à l'entrée de cette salle, mais il a été très modeste et les exemplaires qu'il avait apportés ont tous déjà disparu. Bon, mais vous, ceux qui les ont achetés pourront quand même peut-être les faire dédicacer à la sortie. Ce petit livre est en vente à la librairie Elkar, voilà. Donc à Bayonne, hein, voilà. Sans doute dans d'autres librairies aussi. Antion enseigne l'histoire depuis 17 ans sur le BAB, et j'ai l'impression qu'il y a toute une génération qui a dû apprendre à aimer l'histoire. Il va donc ce soir nous faire partager sa passion pour la Navarre, en nous parlant des événements qui mirent fin à l'indépendance du sud de ce royaume, devenu mythique dans le cœur des Basques.
Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Gamon Deneli, Milesker et les Récédits Sabbatiques. Je vais essayer de vous raconter quelque chose de très compliqué, très long en une heure. C'est un pari compliqué quand même. Mais bon, on va essayer de le faire. Par rapport à mon livre, il y a déjà des choses qui sont un petit peu dépassées. Je le dis juste après l'avoir vendu, mon livre, voilà. Non, il y a des bornes chronologiques qu'il faudrait déplacer. J'ai mis jusqu'en 1524, il faudra aller jusqu'en 1527. Juste sachez que en 2012, les 500 ans de la conquête de la Navarre ont été remémorés, je ne sais pas si ça se commémore, mais en tout cas remémorés. Et à cette occasion, il y a une maison d'édition en navarrais qui s'appelle Pamiela, qui édite à Pampelune, qui a fait travailler de très nombreux historiens navarrais et non navarrais d'ailleurs, qui ont produit beaucoup, qui ont publié beaucoup d'archives, qui font que ce qu'on avait jusqu'en 2012 était un petit peu dépassé. Donc moi, c'est sorti en 2012, mais tout ce qui est sorti en 2012-2013 qui venait de la Navarre a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nouveautés. Donc il devrait être un petit peu rafraîchi, ce livre. Bref, les événements, quand même, les grands événements restent ce qu'ils sont. Alors, deux mots sur la Navarre au début du XVIe siècle. C'est un petit bout de ce qu'a été la Navarre par le passé. Elle a perdu le Guipuscois, toute la région de Durango en Biscaye, tout l'Araba en 1199-1200, c'est-à-dire aux portes du XIIIe siècle, tout l'ouest, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Navarre maritime, tout l'ouest de la Navarre a été perdu. Il lui restait une petite portion là, ce qu'on appelle la Rioja Alavés, qui a été perdu au milieu du XVe siècle. Donc, on a les deux Navarres qui correspondent quasiment, frontière pour frontière, à l'ensemble des deux Navarres aujourd'hui, c'est-à-dire de la Basse Navarre et de la Haute Navarre. Alors, la capitale, vous la connaissez bien sûr, c'est Pampelune, ici, au cœur. Et la Navarre a été organisée en ce qu'on appelle des merinales, des circonscriptions, des grandes provinces à l'intérieur de la Navarre. L'une d'elles a une situation particulière, c'est celle-ci, celle qu'on appelle aujourd'hui la Basse Navarre, que personne n'appelle comme ça à l'époque, bien sûr. Elle a plusieurs noms, on peut l'appeler Tierra de Ultrapuertos, Ultrapuertos, Outre-Port, de l'autre côté des ports, c'est-à-dire de l'autre côté des cols, de l'autre côté des montagnes. Les Castillans et même certains Navarrais l'appellent Tierra de Vascos, la terre des Basques. C'est assez bizarre, mais c'est le nom qu'elle a dans beaucoup de documents. Voilà. Et Basse Navarre, personne ne l'appelle comme ça. Alors pour faire vite, pour commencer en 1512, la Navarre, elle a connu le royaume de Navarre. Il est né en 824, dans le haut Moyen Âge. Vite après, 40 ans après la bataille de Roncevaux, c'est une histoire un peu compliquée, mais bref, il y a une année qui est charnière pour l'histoire de la Navarre, c'est 1234, au début du XIIIe siècle. C'est l'année où meurt Sancho Azcara, Sancho Fort, celui qui a combattu les musulmans dans le sud, en Andalousie, et il meurt sans descendance directe. Il a un fils qui a été évêque de Pamplune, etc., mais lui, quand il meurt, il n'a pas de descendance directe, ce qui fait que ça passe aux enfants de ses frères et sœurs. Et ça rentre en Champagne. Les comtes de Champagne vont être rois de Navarre. Donc on est en plein XIIIe siècle et les seigneurs du nord de la France vont descendre à Pampelune. Ils vont avoir la double titulature. Bon, ça c'est une date charnière parce qu'à partir de 1234, et ça ne bougera quasiment plus, l'ensemble des rois qui règnent à Pampelune, ce sont des rois qui viennent de l'autre côté. Et principalement des grandes seigneuries françaises. Des rois de Champagne, ensuite c'est les rois de France eux-mêmes, qui sont rois de France et de Navarre pour la première fois au XIVe siècle. Ensuite ce sont les seigneurs d'Évreux, Charles II, celui qui est très connu dans la guerre de Cent Ans, c'est Charles le Mauvais, que les Navarrais n'appellent pas comme ça. Charles III le Bon, alors Charles III le Bon, ou le Noble, pardon, vous le trouvez sur la Place à Castillo aujourd'hui à Pampelune, il est debout en statue de pied avec une charte qui octroie l'union des trois grands quartiers historiques de Pampelune, et il repose pour l'éternité dans la cathédrale de Pampelune avec sa femme. C'est lui qui est couché là devant le retable principal. Voilà. Et ensuite, alors, par le jeu des successions, parce que les dames peuvent régner en Navarre, par le jeu des successions, on en arrive en 1483 où c'est la dynastie, une dynastie locale, gasconne, les Foix Béarn qui règnent. Catherine de Foix-Béarn devient reine en 1483. Elle est reine en titre, mais pas de fait. Les Navarrais, parce qu'ils connaissent une très longue guerre civile dans ces années-là, ne la laissent pas rentrer. 10 ans avant de pouvoir rentrer dans son royaume. Et Catherine de Foix-Béarn a épousé un autre seigneur gascon, qui est Jean d'Albret. Voilà. Alors, entre les deux, Foix-Béarn et Albret, ils ont de très nombreuses terres. Ça, c'est important à voir pour comprendre un petit peu ce qui va leur arriver aux deux seigneurs. Donc, ils ont un royaume indépendant qui est le royaume de Navarre, qu'elle a hérité de sa mère, de sa grand-mère, pardon, Catherine de Foix-Béarn, sa grand-mère qui était Éléonore. Donc, ça, c'est leur royaume indépendant. Ensuite, Catherine de Foix-Béarn, elle a une principauté qui s'est érigée en principauté souveraine à la fin du XIVe siècle. Principauté souveraine, c'est ce que réclament les seigneurs de Béarn, c'est ce dont ils se réclament. Alors, est-ce qu'ils sont dans le royaume de France ou non ? Voilà, on est au Moyen-Âge et cette principauté souveraine est, dans les faits, quasi indépendante. C'est une sorte d'Andorre de l'époque qui est, voilà, elle est quasi indépendante. Il doit théoriquement hommage au roi de France, mais depuis certains vicomtes de Béarn de la fin du XIVe siècle, ils ne le font plus. Et donc, ils sont... Au moins pour la principauté de Béarn, ils ne le sont plus. Ensuite, ces seigneurs béarnais, ils ont beaucoup de terres qui sont, elles, directement dans le royaume de France. La vicomté de Tursan, la vicomté de Marsan, la vicomté de Gavardan, le comté de Bigorre, la vicomté de Nébouzan, le comté de Foix, et puis des terres qui sont à la frontière de l'Aragon et de la Catalogne. Ça, c'est tout ce qui appartient à la dynastie de Foix-Béarn. Ça veut dire que les Foix-Béarn sont rois indépendants en Navarre, seigneurs souverains de Béarn, et vassaux du roi de France pour Foix, Bigorre, Tursan, Marsan, Gavardan. Donc trois situations différentes. De son côté, le seigneur d'Albret, qui se marie à l'héritière de Foix-Béarn, lui, il a une grande seigneurie, là, dans les Landes de Gascogne, seigneur d'Albret, de Labrit, c'est comme ça qu'on les appelle, Labrit, il y a un village qui s'appelle Labrit, seigneur d'Albret de Tartas, Et ils ont aussi des grandes seigneuries dans le centre de la France, le comté de Périgord et la vicomté de Limoges. Donc eux, par contre, sont, pour toutes les terres qu'ils possèdent, ils sont des vassaux du roi de France. C'est important à comprendre ça parce que ça va leur jouer de très mauvais tours en 1512. Alors les deux rois ont pu rentrer en Navarre en 1494 et ce sont deux jeunes rois, Catherine de Foix-Béarn et Jean d'Albret. Ils ont 4 ans de différence, Jean est plus jeune de 4 ans. Et ils commencent à réorganiser leur royaume. C'est un royaume qui a beaucoup souffert parce que avant d'arriver au pouvoir, je vous ai dit qu'ils avaient mis 10 ans à pouvoir rentrer parce que la Navarre a été déchirée par une guerre civile terrible qui a été allumée 50 ans plus tôt par Juan II de Aragon, qui était l'époux de la reine de Navarre, qui n'a pas voulu céder la couronne à son fils qui était l'héritier légitime. Ça a fait naître une guerre civile terrible entre ceux qui soutenaient Juan de Aragon, qu'on appelle les Agramontés ou les Gramont, voilà, les Agramontés, et ceux qui ont soutenu le fils à qui on avait nié le droit d'être roi, à qui on avait usurpé la couronne, Carlos, Charles de Vianne, le prince de Vianne, derrière lui, des grands seigneurs, les Beaumont, les Beaumont. Donc les Gramont et les Beaumont, ils ont autour d'eux tout un tas de fidélité qui font plonger l'ensemble de la Navarre dans la guerre civile et l'ensemble des territoires autour. Il y a un très vieux chant en Soule qui s'appelle Bertrechen Cantoia. C'est vraiment l'un des chants les plus anciens qu'on connaisse, qui nous soit venu. Il raconte le jeune Bertrechen qui se fait tuer par Jaun Kuntia, le seigneur, le comte. Le comte, c'est le comte de Lérine qui est monsieur de Beaumont et qui le fait assassiner. Voilà. Donc on est en plein. En Soule aussi, la Soule connaît le Labour, le Guipuscoa, la Biscaye, tous les territoires basques et même un peu au-delà sont traversés par cette guerre civile. Bref, le jeune roi et la jeune reine entreprennent de moderniser leur royaume. Moderniser leur royaume, c'est, quand on va vers le XVIe siècle, c'est aller vers les grands états dynastiques modernes tels que ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire une administration qui va devenir plus puissante et on essaie de passer du seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le seigneur suzerain, c'est ce que les rois de France ont connu au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'ils avaient en théorie le royaume de France, mais dans la pratique, ils ne régnaient, ils ne pouvaient pas atteindre, ils ne pouvaient pas se faire obéir dans les grandes seigneuries, donc ils étaient seigneurs de seigneurs, ils étaient suzerains. L'idée, c'est de passer petit à petit à la domination de ces seigneurs, de devenir le seigneur souverain qui peut agir et contraindre ses sujets partout dans le royaume, quel que soit le seigneur dont il dépend. C'est un peu ça qu'essaie de construire Jean d'Albret et Catherine de Foix-Béarn. Le problème pour eux, c'est qu'ils sont entourés de très grandes puissances. Ils ont le royaume d'Aragon, le royaume de Castille et le royaume de France, ce sont leurs trois grands voisins. À partir de 1469, le prince d'Aragon, Fernando, a épousé l'héritière de la Castille, Isabelle. Fernando et Isabelle, Ferdinand et Isabelle, ce sont ce qu'on va appeler les rois catholiques. Ils sont issus d'une même famille, ils sont cousins un peu éloignés, ils ont une distance du pape pour pouvoir se marier les deux, mais ils sont en train, les deux, de faire l'unité de la péninsule ibérique. C'est un processus long qui commence là, au XVe siècle, qui se terminera dans les années 1580, lorsqu'ils prendront le Portugal, ils auront toute la péninsule ibérique. Ça durera pas très longtemps, le Portugal va se libérer de ça. Bref, c'est un processus qui commence, le processus de réunification de l'ensemble des royaumes de la péninsule ibérique. Voilà. À partir de 1474, les deux règnent sur la Castille, roi et reine de Castille. À partir de 1479, Fernando, il est aussi roi d'Aragon. Ça veut dire qu'un seul et même personnage, Ferdinand d'Aragon, Fernando, règne au nom de sa femme sur la Castille et sur l'Aragon. Donc les Navarrais sont cernés par ce puissant seigneur. Au nord, ce sont les Valois. À l'époque, c'est Louis XII de Valois. Voilà. Et les Valois, les derniers Valois, ils ont un grand projet aussi. Alors, ils sont en train de dominer les grandes seigneuries. Et ils ont quand même un projet sur l'Italie. Certains Valois ont été rois à Naples. Ils l'ont perdu, ce territoire a été perdu. Et donc les rois de France, de Valois, souhaitent récupérer ce territoire. Donc c'est ce qui lance en gros les longues guerres d'Italie. À partir de la fin du XVe siècle, c'est les longues guerres d'Italie. Et ces guerres d'Italie, il y en a plusieurs, hein, il y en a Il y en a un paquet, des guerres d'Italie. Celle qui nous intéresse, c'est celle des années 1507-1508. Le roi Louis XII se lance dans la conquête du Milanais. Alors le Milanais, c'est un duché qui est le plus proche des territoires de la France. Milanais qu'il prend et il commence à avancer. Avançant dans la péninsule ibérique, il se rapproche des territoires d'un autre personnage important, à l'époque qui est un prince territorial, c'est le pape, Jules II. Donc, je résume, mais il menace les territoires de Jules II. Ce faisant, Jules II, avec d'autres qui sont bien intéressés, crée ce qu'ils appellent la Sainte Ligue, c'est-à-dire une alliance internationale contre le roi de France. Alors, avoir le pape contre soi au Moyen-Âge, lorsque l'ensemble de la société est chrétienne, et agresser ces territoires, ils rentrent à Bologne, par exemple, les armées françaises rentrent dans Bologne, c'est dangereux. Le pape, à l'époque, il a l'arme atomique, qu'on appelle l'excommunication. L'excommunication, c'est un pouvoir fort, hein, parce que être excommunié, c'est être sorti de la communion, c'est-à-dire sorti du partage de l'ensemble de l'assemblée des chrétiens. Ça veut dire que Dieu ne vous reconnaît plus comme le roi à Paris, par exemple. Et donc il y a cette menace qui plane sur Louis XII. Elle ne sera jamais véritablement mise à exécution. Le pape jette l'interdit sur la France. Ça veut dire que tout rituel ou toute pratique religieuse n'est plus possible. Il menace tous les alliés du roi de France d'excommunication s'ils aident le roi de France, etc., etc. Le roi de France est complètement isolé en 1508, 1509, etc., dans ces années-là. Il n'est pas excommunié. Le pape lui laisse toujours, il reste dans les bulles, c'est-à-dire dans les documents officiels qu'il écrit, il reste toujours un peu évasif sur la personne du roi. C'est l'un des seigneurs les plus puissants de l'Europe occidentale. Hein. Donc il y a aussi de la diplomatie. Hein. Il reste évasif. Mais il a une épée de Damoclès sur la tête, le roi de France Louis XII. Par contre, le pape est plus dur pour ceux qui s'allieraient avec Louis XII pour qu'il avance en Italie. Et alors, des alliés potentiels, c'est nos pauvres rois de Navarre. Pourquoi ? Parce que dans sa guerre en Italie, dans sa guerre contre la Sainte Ligue, dans laquelle on trouve les cantons suisses, on trouve l'Angleterre d'Henri VIII, on trouve Venise, etc. Donc c'est vraiment une ligue internationale qui est contre lui. Il est tout seul. Il n'a personne. Personne. L'empereur Maximilien d'Autriche le soutient, mais de très 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 loin. C'est pas du tout un soutien effectif. Donc il est tout seul. Il a besoin de l'aide de tous ses vassaux. Des forces militaires de tous ses vassaux. Or, parmi ses vassaux, il y a le seigneur de Foix, la dame de Foix-Béarn et le seigneur d'Albret. Pour ces terres-là, et ces terres-là, ils sont vassaux du roi de France. Et donc c'est ce qui se passe en 1511. Le roi convoque tous ses vassaux, il a besoin de ses vassaux pour avancer dans ses guerres en Italie. Et c'est là que le voisin du sud pose ce qu'on appelle la question qui tue, diplomatiquement parlant. Avec beaucoup de mauvaise foi, Fernando d'Aragon écrit au roi et à la reine de Navarre en leur demandant, dans la lutte entre le pape et le roi de France, du côté de qui vous mettez-vous ? Et ça, c'est une question pour les petits rois de Navarre qui ne peut pas avoir de bonne réponse. Disons qu'ils répondent, on se met du côté du roi de France. Il y a une bulle qui excommunie tous ceux qui s'allient au roi de France. Donc, ils tombent sous l'excommunication. Être excommunié, ça veut dire ne plus être reconnu. Ça veut dire que le pape autorise quiconque à rentrer à Pampelune et à ceindre la couronne de Navarre. Donc, se mettre du côté du roi de France, c'est perdre le royaume de Navarre. Se mettre du côté du pape, c'est devenir un vassal félon, ne pas obéir à son seigneur pour toutes ces terres-là. Et c'est risquer de les perdre toutes, et même de perdre le joyau, la principauté de Béarn, qui est une principauté souveraine, mais la colère de Louis XII, où est-ce qu'elle s'arrête ? On ne sait pas. Et donc, face à cette question, la question de Fernando, dans quel camp vous mettez-vous ? On temporise. À la cour de Pampelune, on essaie de ne pas répondre à la question. Ça veut dire qu'on dit, nous sommes neutres. Cette neutralité, Louis XII la refuse. Il dit, un vassal ne doit pas être neutre. Si le seigneur l'appelle, il lui doit obéissance. Et donc le vassal doit obéir. Les rois de Navarre ne veulent pas bouger pour leur territoire. Ils ne veulent pas mobiliser leurs armées pour aider le roi de France. Ce faisant, le roi de France, en 1512, commence la commise des fiefs, c'est-à-dire la confiscation des terres qui sont à l'intérieur du royaume de France, c'est-à-dire tout ça. Commençant la confiscation, les rois de Navarre veulent stopper cette procédure et donc entament des pourparlers. Ils montent jusqu'à Blois avec le roi de France. Et ces pourparlers-là sont utilisés par Fernando de Aragon pour faire croire, c'est d'une certaine manière ça, pour faire croire au pape que les Navarrais, que le roi et la reine de Navarre ont fait leur choix et que dorénavant, ils penchent du côté français, donc contre le pape. Et c'est ça l'argument principal qui autorise Fernando d'Aragon à rentrer en Navarre. Alors aujourd'hui, les historiens qui ont travaillé dans ces archives-là ont fait la preuve de la mauvaise foi de Fernando d'Aragon sur plusieurs points. C'est qu'il a publié le soi-disant texte qui montre la négociation entre les Français et les Navarrais à Blois. C'est un texte qui n'existe pas. C'est un texte fait par les Espagnols, par les Aragonais ou les Castillans eux-mêmes. Il y a eu un texte après, mais c'était après l'invasion de la Navarre. Avant, il n'y en a pas eu. Il y a des pourparlers, mais il n'y a pas eu de texte. Donc le texte qu'il a fait connaître publiquement, c'est un faux. Un faux historique.
Fake news.
Première chose. Et deuxième chose, il a anticipé la réaction du pape. C'est-à-dire que il a fait savoir qu'il y avait négociation entre les Navarrais et le roi de France. Ce faisant, il a dit, puisqu'ils négocient avec le roi de France, c'est qu'ils vont être excommuniés. Ils sont donc excommuniés, il n'y a donc plus personne à Pampelune, je peux donc rentrer dans Pampelune. Mais le pape n'a pas encore édité de bulle. Donc en juillet 1512, lorsque commence l'invasion militaire de la Navarre, c'est vraiment une conquête par les armes, il n'y a pas d'argument juridique. Fernando se fonde sur deux choses, des discussions qui n'ont pas donné lieu à un traité signé, et une excommunication qui n'est pas arrivée. Voilà. Donc c'est, il y a plusieurs ouvrages, Fernando el Falsario ou la Conquista et Il Justificala, il y a plein de livres qui sortent en ce moment, documents à l'appui, pour montrer que vraiment il a assouvi une envie qu'il avait depuis longtemps, c'était se faire le petit royaume de Navarre. Voilà. Là vous avez une gravure qui est dans une bibliothèque à Madrid. Alors, on ne sait pas trop si c'est Catherine de Foix-Béarn ou si c'est son jeune frère qui a régné avant, François Phébus. C'est sûr que c'est un des derniers. Et là, vous voyez la complexité à l'époque pour les dynasties. Les blasons qu'elle porte sur le caparaçon de son cheval ou sur elle, son armure elle-même, sont compliqués. Ici, vous avez les escarboucles de Navarre. Ce ne sont pas les chaînes, hein, au passage. Vous savez que les chaînes, c'est après la conquête de la Navarre. Jusque-là, ce sont les raies d'escarboucles. Les boules, alors ça ressemble beaucoup aux chênes, mais symboliquement, la Navarre n'a pas de chêne avant d'avoir été conquise. Là, vous avez la Bigorre, les deux lions passants de Bigorre. Là, vous avez les deux vaches passantes du Béarn. Là, vous avez l'Aragon et la Castille. Et là, vous avez la seigneurie d'Évreux. Donc, on voit sur sa tête, elle a donc elle, si c'est Catherine, ou il, si c'est son jeune frère François Phébus, la couronne des rois avec la vache béarnaise, le Béarn étant le cœur de leur possession. Donc voilà, Jules II, c'est lui le pape qui est utilisé par Fernando de Aragon, c'est lui qui est utilisé pour justifier d'une manière canonique, on va dire, l'invasion de la Navarre. Mais on se pose véritablement la question, parce que Jules II va faire une bulle contre les Navarrais, elle vient après. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a complicité ou est-ce qu'il a été utilisé? Ça, les historiens, ils n'ont pas la réponse aujourd'hui. Bref, alors voilà, on est à l'été 1512, et les opérations militaires sont très très bien calculées. Depuis le début de l'année, ça veut dire avant qu'il ne se soit passé les pourparlers à Blois, avant tout cela, déjà on mobilise. À Fontarabie, c'est là que on a tous les vivres qui arrivent. Des tonneaux, du sel, des porcs, etc., etc. Ici. À Salvatierra, ce sont les armées qui se rassemblent. Alors, Salvatierra, c'est un araba. Ce sont les armées castillanes, principalement. Sachez que les Aragonais sont très réticents. Ils promettent plusieurs fois d'envoyer des armées qui viendront que très, 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 très tard. Et vous voyez, ils interviendront ici et ici, mais sur la fin. L'invasion elle-même, c'est une invasion castillane, à laquelle il faut rajouter, et c'est ce que Manej Goyeneche appelait la tragédie des Basques, la conquête de la Navarre, à deux titres, parce que la Navarre, le seul royaume indépendant qu'avaient construit les Basques est perdue, et surtout parce que c'est une guerre civile entre Basques, la conquête de la Navarre. Alors, mobilise en masse les Arabes. 1200 hommes sont pena de la vida. Ça veut dire que le député général d'Araba fait mobiliser sous peine de mort les Arabes pour venir combattre. Il n'a pas de mal à les faire venir, hein. 1200 hommes qui vont demander l'honneur de pouvoir prendre Estella, ici. Donc ce sont les Arabes qui vont faire tomber Estella. Et alors, 4000 Guipuscoans, bon, vous savez qu'ici c'est de vieilles haines sur les frontières entre Guipuscoans et Navarre, très très vieilles haines, de vieux conflits pastoraux, etc., etc., de frontaliers. Et donc les Guipuscoans sont à l'intérieur de la couronne de Castille, et les Guipuscoans mobilisent en masse pour envahir la Navarre. Donc, en plus des troupes castillanes de Castille, vous avez des troupes voisines du Guipuscoa et d'Araba qui mobilisent. Les Biscayens beaucoup moins, mais un petit peu, mais beaucoup moins. Ce sont les deux premiers voisins qui eux mobilisent beaucoup. Donc on a une armée de 25 000 hommes qui rentrent en Navarre. La Navarre, pour vous dire, Pampelune à l'époque, estimée par les historiens entre 8 et 10 000 habitants. La Navarre en tout, 100 000 habitants au début du XVIe siècle. Donc 25 000 hommes qui rentrent dans un royaume de 100 000 habitants, voilà. Bon. C'est impossible. C'est impossible à tenir. Hein. Impossible à tenir. Il faut rajouter aussi beaucoup de forteresses frontalières qui ont été détruites pendant la guerre civile entre Agramonté et Beaumonté. Détruites et non reconstruites. Les jeunes rois et reines n'ont pas eu le temps de reconstruire certaines de ces forteresses frontalières. Les Cortes de Navarre, les Cortes, c'est le parlement qui rassemble le clergé navarrais, la noblesse navarraise et les représentants des villes et des vallées navarraises. Les Cortes votent la levée de 4000 hommes, mais 4000 hommes, ils la votent et d'une part très tard, et d'autre part 4000 face à 25 000, c'est, voilà, ils ne pourront pas tenir. Donc ils rentrent le 21 juillet et le 25 juillet, Pampelune est déjà prise. Alors Pampelune a été prise très vite, il n'y a pas eu de résistance. Le roi lui-même a autorisé, entre guillemets, ses sujets à se rendre, puisque lui s'est replié sur Lumbière. Lumbière qui est un peu un promontoire. Depuis Lumbière, il pense pouvoir organiser la résistance. Il n'a pas le temps. Les armées castillanes viennent trop vite. Donc Pampelune est prise le 25 à Saint-Jacques. Santiago. Pour l'Espagne, c'est tout un symbole. Santiago Matamoros, celui qui tue l'infidèle. Le jour où ils rentrent dans Pampelune, c'est le jour de leur saint qui les a aidés pendant, qui a été leur saint patron pendant toute la Reconquista. Symboliquement, le Navarrais, c'est l'infidèle. D'ailleurs, ils construisent dans les années qui suivent, aux portes de Pampelune, ils en font une forteresse imprenable, les Castillans ici. Hein. Ils savent que c'est la clé pour le roi de France et pour les Navarrais. Ils construisent un fort aux portes de Pampelune qui s'appellera le Fort Santiago. Donc, dans la symbolique espagnole, c'est très très fort. Hein, dans le mythe de Santiago Matamoros qui est apparu en blanc avec son cheval dans les premières batailles contre les musulmans, c'est le jour de la Santiago qu'ils sont entrés dans Pampelune, qui s'est rendu. Alors, les bourgeois de Pampelune ont essayé de négocier en disant « On reconnaît Fernando comme le roi de fait, mais notre roi naturel, ça reste Jean et Catherine. » Rien. On négocie pas, vous avez perdu, vous pliez. Depuis Pampelune, le chef des armées castillanes, le duc d'Albe, duque de Alba, fait envoyer des lettres à toutes les grandes villes. Estella, Tafalla, il manque Olite ici, Tudela, Sangüesa, Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà. Voilà toutes les grandes villes, c'est celle-ci. Une lettre de menace. Si vous ne vous rendez pas, on détruit tout. 25 000 hommes, toujours la même chose. Il y a quand même quelques poches de résistance. Dans le sud, Tudela refuse de se rendre. Et ils vont tenir fièrement, et c'est pas peu de le dire, parce qu'ils sont complètement encerclés et par les Castillans et par les Aragonais qui viennent de Tarazona, c'est la ville d'Aragon qui est au sud là. Complètement encerclés. Et il y a une correspondance qui a été publiée par un historien navarrais. La correspondance entre la reine Catherine, qui elle s'est repliée avec. Catherine s'est repliée directement en Béarn, à Orthès puis à Pau, tandis que Jean de Lumbière passait à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis ensuite il se retrouve à Bayonne après. Donc assez vite, la reine puis le roi se sont repliés. Mais il y a la correspondance entre la reine et les autorités de Tudela, qui est assez poignante, où il la supplie plusieurs fois d'envoyer des contingents pour libérer l'encerclement, le siège de Tudela. Elle ne pourra pas, elle n'a pas le temps d'envoyer des troupes pour libérer Tudela, surtout que les armées castillanes sont très très puissantes. Alors là où c'est plus dur, c'est le passage vers Ultrapuertos. Ça, c'est une autre affaire. Là, le duque d'Alba, lui-même, il n'y va pas. Il reste à Pampelune et il s'occupe de réorganiser tout, l'administration essaie de commencer à réorganiser. Il envoie un colonel, un vieux colonel, qui a le cuir bien dur, le colonel Villalba. C'est lui avec 5 à 6 000 hommes qui passent les ports de Cise, les cols de Cise, c'est-à-dire Ibagneta, voyez, et qui font sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port est prise assez rapidement. Mais là, il y a une résistance qui est plus aisée, pour deux raisons. Les armées, elles ont les montagnes à franchir. Au XVIe siècle, quand on passe, c'est avec chevaux, vivres, canons, etc., etc. Les armées, elles ne se déplacent pas facilement. Première chose. Donc, quand on est du côté Ultrapuertos, on est un peu coupé du reste de l'armée. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que le nord, ici, à Micousé, la région de Mix et Ostibare, touche le Béarn. Or là, il y a une grande seigneurie qui appartient à Jean et Catherine, dans laquelle ils peuvent mobiliser. Donc, tout ce nord-là, la région de Saint-Pal et la région d'Ostabat, Ostibare à Micousé, c'est des territoires que jamais les Espagnols le contrôleront vraiment. Voilà. Par contre, ils viennent montrer leur puissance. Hein. Les Castillans, ils rentrent à Garis, qui était la cité la plus ancienne avant Saint-Pal. Et Garis est complètement détruite, incendiée. Aujourd'hui, ils ont mis une sorte de stèle de souvenirs dans laquelle on cite ce que les Castillans eux-mêmes ont écrit dans leur chronique de la conquête de la Navarre, hein, comme quoi le colonel Villalba avait donné toute licence, toute autorisation à ses soldats de faire ce qu'ils voulaient à Garis. Donc on a les premiers crimes de guerre, si vous voulez, en version petite, mais ça se passe à Garis. Le feu à Garis. À la fin août, début septembre, tout est tombé. Le 7 septembre, Tudela se rend. Ils sont rentrés le 21 juillet. Le 7 septembre, c'est fini. Tudela s'est rendu. Il ne reste plus que le fort d'Estella, l'un des châteaux royaux d'Estella. La ville d'Estella a été prise. Les autres châteaux aussi. Il en reste un qui résiste. Ça veut dire qu'il reste une île légitimiste au milieu d'une Navarre quasiment complètement vaincue. Il reste aussi le nord de la basse Navarre. Voilà. Donc, c'est le moment où les Castillans commencent à réorganiser ce royaume en faisant très attention. Ils sont aidés par les Beaumontais. Vous savez, dans ce parti nobiliaire, les Beaumontais ont pris fait et cause pour la Castille. Et donc, certains Beaumontais ont facilité l'entrée des Castillans, ont permis dans certains de leurs palais ou de leurs châteaux à l'armée de se reposer, de se ravitailler, etc. Donc, Louis de Beaumont, le chef du parti Beaumontais, il est nommé président du Conseil royal, c'est-à-dire président du gouvernement, de l'ancien gouvernement de la Navarre. Voilà. Ensuite, les Castillans font venir tout un tas d'administrateurs qui remplacent les administrateurs fidèles, légitimes, hein, on les remplace par des Castillans, pas par des Navarrais Beaumontais. Ça, c'est assez étonnant. C'est remplacé par des Castillans, ça veut dire que c'est une prise de contrôle directe. Par contre, Fernando, il ne supprime pas les grandes institutions navarraines. Il a peur, là, d'une réaction trop générale des Navarrais. Donc, il garde les grandes institutions, c'est-à-dire qu'il garde les fueros. Les fueros, ce sont les vieilles lois écrites qui donnent des droits, des devoirs à chacun, qui expliquent comment est-ce qu'on élève le roi, comment doit jurer le roi, comment doit jurer ensuite la population ou les représentants de la population envers le roi, le statut des judios, des juifs et de leur communauté, le statut des moros, des musulmans, le statut... Bon, voilà. Ça, ce sont les fueros. Les fueros de Navarre, ils ont été mis par écrit au XIIIe siècle. Ce sont les plus anciens pour les Basques. Ils ont été mis par écrit au XIIIe siècle lorsque sont arrivés les premiers seigneurs français. Lorsqu'ont arrivé les premiers seigneurs français, les seigneurs de Champagne, ils ne connaissaient rien aux usages navarrais. Et donc, tous les petits fueros qui avaient été donnés pendant la reconquête à toutes les villes, à toutes les communautés paysannes, aux anciens chrétiens qui vivaient dans le sud sous l'occupation musulmane, aux musulmans, etc. Toutes ces petites libertés, elles ont été rassemblées et recopiées dans un seul et même texte qu'on appelle El Fuero Antiguo, qui a été écrit en 1238. Il a été amélioré plusieurs fois, il est devenu el Fuero General de Navarra au 14e et au 15e siècle. Il a été amélioré. Ces fueros-là, il ne les enlève pas. Fernando les conserve. C'est très important pour les Navarrais. Il conserve aussi l'institution majeure qui sont les Cortes, la cour. Et par contre, il n'y aura plus de roi à Pampelune, donc il nomme un vice-roi, le marquis de Comares, un castillan, et à partir de la conquête jusqu'à la fin de, jusqu'au moment où la Navarre deviendra une province, c'est-à-dire en 1841, donc de 1512 jusqu'en 1841, la Navarre aura toujours un vice-roi qui sera toujours un castillan. Toujours. Jamais un Navarrais beaumonté, fidèle, etc. Toujours un castillan, quelqu'un de l'extérieur. Voilà. Donc il y a une première session des Cortes en 1513, après la conquête, où le vice-roi vient se faire connaître aux représentants du peuple. Et là, c'est un soulèvement général, alors un soulèvement, comment on va dire, des députés. Hein. C'est pas le pays, c'est pas la Navarre qui se soulève, mais ce sont ses représentants qui ont beaucoup de récriminations à faire. Pourquoi les postes sont donnés aux castillans? Pourquoi la trésorerie, la fiscalité est entre les mains d'un castillan? C'est même pas un castillan, c'est un italien. Giovanni Reina, qu'on appelle Juan Reina, qui va se faire naturaliser castillan puis navarrais, c'est l'homme de l'ombre. Celui qu'on ne lit pas dans les récits, mais c'est celui qui tient tout le monde. C'est-à-dire qu'il confisque les biens du clergé, par exemple. Notamment les immenses richesses de l'évêque de Pampelune. À cette époque-là, il a de la chance, l'évêque de Pampelune est mort. Donc il peut récupérer ses richesses. Et donc ça permet d'avoir un patrimoine entre les mains des castillans, une force de frappe dans la Navarre elle-même. Donc déjà qu'elle était faible, en plus, sa fiscalité est tenue par un homme très 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 fin, très malin, hein, Juan Reina, qui a laissé, qui était un administrateur vraiment zélé, qui a laissé tous ses documents, les documents qui sont en train d'être redécouverts. En ce moment, les archives de Pampelune commencent à publier le fonds Reina, les Carpetas Reina, et donc on trouve des choses. Moi, par exemple, j'ai trouvé une lettre du vicomte de Chaus, le seigneur de Baïgorry, en 1522, je vous en reparlerai, qui écrit au dernier résistant qui écrit pour les informer au dernier résistant d'Amayur, de Maya de Bastan, la dernière forteresse qui est debout en 1522. Donc c'est des documents que lui a collectés, ce personnage-là a collecté. Bon, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, et c'est celui qui permettra que la conquête devienne une domination totale, ce personnage-là.
La conquête de la Navarre par les rois catholiques, vous venez de suivre la première partie de la conférence d'Antion Curuchari, professeur d'histoire et auteur de l'ouvrage publié chez Elkar, 1512-1522, La conquête de la Navarre. Cette conférence a été enregistrée le 25 janvier 2018 à Saint-Jean-de-Luz, dans le cadre des Jeudis du Batsoki, et nous remercions particulièrement Serge Arismendi pour l'enregistrement de cette conférence. Vous pourrez suivre la seconde et dernière partie de cette conférence passionnante d'Antion Curuchari sur cette antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.